c'est de vous dire ce que les scientifiques pensent de l'environnement et quelles sont pour eux les grandes questions, les questions vraiment importantes, les défis qui nous attendent. Et je vais essayer donc de vous dire ça. Alors, voilà à peu près le plan de l'exposé. On va commencer par voir ce que c'est la vie et comment est-ce qu'on peut la voir, une sorte de Lego, vous verrez, et de quoi la vie a besoin pour se développer. On va voir aussi comment, du coup, l'homme agit sur la planète en ce moment et quels sont les gros impacts qu'on a, hein, que notre vie de tous les jours peut avoir sur l'environnement et qu'est-ce qu'on perturbe exactement, qu'est-ce qu'il faudrait pas perturber et de préférence si on veut garder une planète qui continue en fait à nous rendre des services genre l'eau qu'elle nous fournit, la nourriture, si on veut continuer à pouvoir avoir ça, faut pas trop pousser le bouchon. On va voir aussi quelles conséquences sont à craindre justement si on pousse trop le bouchon, et qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire, même vous, dans votre vie de tous les jours, voire même dans votre vie professionnelle, parce que ça risque de vous arriver, vous verrez. Alors, la vie, vue par un physicien, c'est de la matière et de l'énergie. Alors, la matière, c'est juste, faut vraiment voir la vie comme un Lego, d'accord ? On a besoin d'atomes pour construire un être vivant. C'est essentiellement, d'abord, des atomes de carbone, qui forme finalement la colonne vertébrale de toutes nos molécules. En gros, on a une forme de squelette. Toutes les molécules, elles ont un squelette de carbone. Et autour de ces atomes de carbone, on trouve de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et un peu de phosphore. En fait, vous allez voir que là, comme ça peut paraître rébarbatif, mais c'est très important pour comprendre vraiment qu'est-ce qui empêche un être vivant de se développer. Ça peut être par exemple un manque de phosphore. On verra comment nous, on se débrouille pour que les êtres vivants qu'on veut voir pousser, genre les céréales, manquent pas de phosphore. Et puis il y a aussi le calcium qui sert pour nos squelettes, c'est important pour les vrais squelettes aussi, et puis aussi pour les coquilles des animaux dans la mer. Et puis, beaucoup d'eau. Alors ça, l'eau, on la trouve quand même facilement, mais vous pouvez voir un être vivant comme nous comme un gros sac d'eau d'abord. Et puis dedans, il y a autre chose que de l'eau, mais pas beaucoup. Hein. Un être humain, c'est 70% d'eau. C'est vraiment un sac d'eau. Alors, il y a un truc qui est très important pour comprendre, c'est que non seulement il faut ces briques, d'accord, mais il faut pouvoir les assembler, et ça demande de l'énergie. Et ce qui fournit l'énergie pour fabriquer les molécules, c'est la photosynthèse, c'est-à-dire les plantes. Puisque nous, après, on mange des plantes, hein, donc on leur pique leur énergie. Donc, il faut du carbone. Et le carbone, on le prend dans le dioxyde de carbone de l'air. Vous connaissez le dioxyde de carbone ? Ouais, si à peu près. C'est le CO2, on en entend beaucoup parler pour l'effet de serre, on en reparlera. Il faut arracher l'hydrogène à l'eau. Et ça, c'est vraiment pas facile parce que l'oxygène tient beaucoup à ces atomes d'hydrogène. Il faut arracher l'azote à l'atmosphère. En fait, plus exactement, les atomes d'azote se tiennent par deux. Ils sont super bien collés. Quand on en a besoin que d'un seul, il faut vraiment l'arracher. Et ça, c'est pas facile à faire pour un être vivant. Il faut trouver du phosphore. Le phosphore, il est relativement rare dans l'environnement, et les plantes ont besoin de phosphore pour pousser. Donc il faut trouver du phosphore. Et donc, les plantes utilisent la lumière du soleil comme source d'énergie pour arriver à se procurer les briques pour se fabriquer, le carbone, l'hydrogène, pas l'oxygène, et donc l'azote. Alors, au feu. Quand vous voyez du feu, en fait, ce qui se passe, c'est le contraire de la photosynthèse. Ce qui se passe, c'est extrêmement simple. C'est juste que les atomes de carbone, d'hydrogène, ont tendance à vouloir rejoindre les atomes d'oxygène dont ils ont été séparés par les plantes. Et quand ils le font, ça libère beaucoup d'énergie. C'est l'énergie que la plante a reçue. En gros, quand vous faites brûler un morceau de bois, vous dégagez tout d'un coup toute l'énergie solaire que la plante avait emmagasiné. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est violent, c'est pour ça que ça fait donc ce qu'on appelle le feu. C'est cette énergie solaire qui est libérée d'un seul coup. Bon, en fait, nous, on fait la même chose, mais beaucoup plus lentement. Quand vous mangez une plante, après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez respirer l'oxygène et il va, dans votre corps, se réassocier au carbone et à l'hydrogène. C'est pour ça, en fait, que nous-mêmes, on rejette du CO2 et de l'eau quand on respire. Voilà. Donc finalement, nous, on est des machines qui fonctionnent grâce à une forme de feu, mais bien plus lente. C'est ça, c'est une forme lente de feu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est des animaux à sang chaud. Enfin, on l'utilise aussi pour ça. Et le reste? Donc le reste, c'est l'azote. Donc l'azote, il vient de l'air, c'est ce que je vous ai expliqué. Les atomes d'azote, ils vont deux par deux. Il faut arriver à les séparer. En fait, il y a très peu de plantes qui savent faire ça. Enfin, il n'y a quasiment pas de plantes. Par contre, il y a certaines bactéries qui savent le faire. Et puis, en fait, nous, on verra ça aussi. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que l'azote, il y en a plein dans l'air, mais vraiment plein, hein. C'est 70% de l'air. Mais simplement, les plantes, elles savent même pas l'utiliser. Elles savent pas comment séparer les atomes d'azote. Et puis, il y a le phosphore. Et le phosphore, en fait, il y en a dans les roches. Donc, les fleuves, quand ils passent sur les roches, ils emmènent le phosphore. Les plantes sont contentes de le trouver, mais elles vont pas le chercher toutes seules, quoi. Alors, dans l'histoire de la Terre, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, il n'y avait personne qui faisait de photosynthèse. Donc en fait, il n'y avait pas d'oxygène dans l'air, il y avait beaucoup de CO2. Petit à petit, les plantes ont piqué tous les atomes de carbone qui étaient dans l'atmosphère, puisque le carbone, hein, il vient que du dioxyde de carbone. Et puis, donc ça a fait des plantes qui sont mortes, et ça a formé des sédiments. Alors les sédiments, ben, c'est juste la terre sur laquelle on est, hein, toute la terre meuble. C'est en fait des restes d'êtres vivants. Et puis le pétrole aussi. Donc le carbone de l'air, il a été transféré finalement sous terre, d'une façon ou d'une autre. Et il reste du coup dans l'air beaucoup d'oxygène. Mais l'oxygène, on entend souvent dire par exemple que, je sais pas moi, l'Amazonie c'est le poumon de la planète. Et ça donne un peu l'impression que c'est l'Amazonie qui crée l'oxygène dans l'air. En fait, l'oxygène de l'air, il est dû au... millions d'années, aux centaines, aux milliards d'années pendant lesquelles il y a eu des êtres vivants qui ont pompé le carbone de l'air en rejetant l'oxygène. Donc même si on brûlait toutes les forêts là aujourd'hui, eh ben il resterait encore beaucoup d'oxygène. D'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire, de brûler toutes les forêts, ou à peu près. Bien, donc l'oxygène il reste là, et puis sous terre il y a du pétrole, du charbon et du gaz qui sont les restes de tous ces êtres vivants qui ont vécu pendant des millions d'années. Il y a aussi un autre service qui est pas très visible, mais vous en avez déjà entendu parler. Et puis en fait, vous verrez qu'il y a des gens très bien placés qui confondent un peu l'ozone et le réchauffement climatique. Des gens très très connus. Alors, en fait, la vie, elle aurait jamais pu se développer sur Terre sans la couche d'ozone. Vous en avez tous entendu parler de la couche d'ozone, un petit peu. Ouais. Donc la couche d'ozone, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous protège des ultraviolets. Au tout début de la Terre, enfin au tout début de la vie plus exactement, il n'y avait pas de couche d'ozone parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'air. Du coup, tous les êtres vivants, ils étaient planqués parce qu'ils ne pouvaient pas vivre au soleil. Un coup de chance, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des êtres vivants qui ont commencé à produire de l'oxygène. Et quand on produit de l'oxygène, et ben on forme naturellement une couche d'ozone qui protège des ultraviolets. Et donc, les êtres vivants ont pu sortir de là où ils étaient planqués, c'est-à-dire le fond des mers. Donc si nous, on peut se balader à la surface de la Terre sans trop de problèmes, c'est parce qu'il y a une couche d'ozone. Voilà. Alors, au tout début de la Terre, il n'y avait forcément pas de vie. Donc ce qui façonnait la Terre, c'était juste l'eau qui coulait, je sais pas, on imagine tout le temps des gros volcans, des météorites qui tombent et tout ça. Puis petit à petit, il y a eu de plus en plus d'êtres vivants, ils ont un peu tout colonisé, et finalement ils se sont mis à façonner la Terre, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir un vrai impact sur même les montagnes, parce que finalement, on s'est aperçu, les êtres vivants empêchent l'érosion naturelle. D'accord ? Donc les montagnes, elles seraient plus petites en gros, si elles n'étaient pas couvertes d'arbres. C'est à peu près ça. Et puis, les êtres vivants, ils pompent de l'eau, et elle s'évapore au niveau de leurs feuilles. Et après, elle retombe, comme là. D'accord ? Mais donc, ils jouent un rôle énorme sur l'évaporation de l'eau. Donc, sur les pluies. Par exemple, si vous prenez la forêt d'Amazonie et que vous la rasez, eh ben en fait, il n'y aura pas autant de pluie à cet endroit-là, parce que la majorité des nuages au-dessus de la forêt amazonienne, elle vient de l'évaporation des plantes, de leur transpiration en quelque sorte. Ouais, c'est pas très sexy dit comme ça, mais voilà, les plantes transpirent. Et voilà, donc elles ont commencé à avoir un gros impact. Le premier gros impact, c'est en fait quand les plantes ont créé l'oxygène. Parce qu'il y avait plein de fer partout, du fer standard, voilà. Et quand les atomes d'oxygène ont rencontré le fer, ils se sont associés et ça a fait de la rouille. Et au moment donc où les êtres vivants ont créé l'oxygène, ça a fait ce qu'on appelle la grande oxydation, et tout le fer, fou, il a rouillé en quelques millions d'années, centaines de millions d'années. C'est ce qu'on a appelé la grande oxydation. C'était la première fois, finalement, dans l'histoire de la Terre, que la vie commençait à avoir un effet sur l'environnement très important. Bon. Voilà pour l'effet de la vie sur l'environnement. Alors, il se trouve qu'on est dans une période, en ce moment, qui s'appelle l'Holocène. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça a commencé depuis la dernière glaciation. Donc, avant, on se pelait, et maintenant, il fait plutôt doux. Et cette période dure depuis 10 000 ans. Et c'est ça qui a permis, en réalité, aux civilisations humaines de se développer. Parce que l'environnement changeait pas trop. D'accord? On ne prenait pas une glaciation tous les 4 matins, ça bougeait pas trop. Ça a permis aux villes de se développer. Ça a permis donc à la civilisation d'exister. Et donc c'est grâce à cette période bénie, ou à peu près, que l'homme s'est développé. Et il l'a fait de façon assez consistante. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on est à peu près bientôt 7 milliards sur la planète. Et ça représente un bon paquet de monde. Donc on va voir maintenant où est-ce qu'on en est de notre action sur la planète. On a vu l'action de la vie sur la planète, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça? Alors, ouais, ok, ça fait... Ouais. Donc il faut que je vous explique ce que c'est qu'une croissance exponentielle. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, en fait. Puis vous en entendez parler tous les jours, ou à peu près. Alors, en gros, au début, il n'y avait que quelques hommes. Puis ils ont commencé à se multiplier. Et si on imagine, par exemple, que que la population humaine double tous les... Ouais, non, je ne veux pas dire de bêtises, mais tous les... Non, je ne dis pas de bêtises. Ok, je dis rien. Donc, en tout cas, la population augmente. Et l'idée d'une croissance exponentielle, c'est quand vous avez deux individus, ils peuvent faire quatre enfants qui, à leur tour, vont faire chacun des enfants, etc. Il y aura de plus en plus de monde. Cette façon de croître, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Vous connaissez bien ça parce que on n'arrête pas de vous parler de la croissance économique. Ouais, il y a 1%, 2%. Bon, mais quand au bout de 10 ans, en fait 10 ans de croissance à 2%, ça fait pas 20% de croissance, ça fait plus. Parce que les 2% que vous ajoutez chaque année, eux aussi, ils croissent l'année d'après. On va voir l'effet que ça a. Mais donc, la croissance exponentielle, elle s'est traduite sur la population, on est de plus en plus nombreux, donc 7 milliards. La consommation d'énergie, de pétrole, de charbon, de tout ça. Les surfaces cultivées, on s'étend de plus en plus, on rase de plus en plus de forêts pour faire des champs. L'eau prélevée, on commence à en prélever un paquet. Et aussi donc la croissance économique du produit intérieur brut, et dont on nous parle beaucoup. Donc tous les ans, on multiplie par un même facteur. Alors, j'ai un exemple. Voilà un exemple de croissance exponentielle. Une croissance exponentielle, même si tous les ans on multiplie que par un facteur pas très grand, si on a quelques pourcents de croissance, ça fait ce genre de courbe. C'est-à-dire que pendant longtemps on voit à peu près rien, et puis ça grandit très très vite. Quand ça commence à décoller, ça décolle très fort. Voilà, donc ça c'est la population humaine depuis le début de l'Holocène. Donc là ils n'étaient pas très évolués, donc ils n'étaient pas encore couverts de poils et tout ça, ils ressemblaient à nous. C'était des hommes standards. Voilà, 5000 ans, c'est le début de l'histoire à peu près. Et puis donc on arrive, il y avait déjà pas mal de monde ici, c'est-à-dire au début de notre période, de notre ère. Il y avait déjà pas mal de monde, c'était les Romains qu'on voit là en gros. Et puis après le Moyen Âge, ça a continué à croître et là, évidemment de nos jours, ça a cru énormément. Alors je vais vous donner un autre exemple de croissance exponentielle, c'est celle de la consommation d'énergie. Alors on va prendre une hypothèse très très légère, c'est 1% de croissance par an de l'énergie. En fait en ce moment on fait un petit peu plus, on fait plutôt 1,5% mondialement. Donc ça veut dire que tous les ans vous prenez la consommation d'énergie, vous multipliez par 1,01. C'est pas grand chose. Mais en fait si pour l'instant donc la Terre reçoit 10 000 fois sous forme d'énergie solaire ce dont l'humanité a besoin. On est cool, on a l'impression qu'on peut en avoir pour longtemps. Et puis, si on écoute nos dirigeants, ça, on a un peu l'impression qu'une croissance, ils voudraient en voir pour des centaines, voire des milliers d'années. Eh bien, imaginons en fait 1000 ans de croissance, on pourrait l'espérer, à 1% par an pour la consommation d'énergie. Ça fait que, en fait, dans 1000 ans, on aura besoin de toute l'énergie du Soleil reçue par la Terre. Puis on pourrait espérer 3000 ans de croissance. Mais si on fait 3000 ans de croissance exponentielle, vous avez vu la courbe, ça monte très très vite, on aurait besoin de toute l'énergie dégagée par le soleil. En gros, il faudrait qu'on entoure le soleil de panneaux photovoltaïques. Ça, c'est 3000 ans de croissance à 1% par an. Donc en fait, ça c'est pour vous montrer le problème, c'est que on va avoir du mal, en 3000 ans peut-être, on va avoir du mal à couvrir tout de panneaux photovoltaïques, le tour du soleil. Et donc, il y a un gros problème qui se pose aux humains, c'est que la Terre, ben, au bout d'un moment, ça s'arrête. On ne peut pas consommer de plus en plus d'énergie et de tout. Et surtout quand on est très très nombreux. Alors, il y en a qui disent que maintenant, on n'est plus dans l'Holocène, mais qu'on a tellement modifié l'environnement, nous, qu'on est plutôt dans ce qu'on appellerait l'Anthropocène, l'âge de l'homme. Tellement on a commencé à tout modifier. Alors pourquoi ? Ben, parce qu'on est plus de 6 milliards, hein, c'est 6,7 milliards, normalement, à peu près aujourd'hui. On utilise 12% de toutes les terres pour cultiver juste ce qu'on mange. Ce qu'on mange et ce que mangent nos vaches et nos cochons. Ça a une nuance. Mais voilà, on capte une grande partie de l'eau. Bon, on a brûlé 1000 milliards de barils de pétrole depuis qu'on a trouvé qu'il y en avait sous terre. Et ça fait pas très longtemps, hein. C'est depuis en gros le milieu du les années 1850. Donc depuis 150, 160 ans, on a brûlé 1000 milliards de barils de pétrole. Tout ça, c'était du carbone, vous vous souvenez, qui était stocké sous terre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a renvoyé dans l'atmosphère. Donc, on est devenu une des plus grandes forces qui modèle l'environnement. Pour vous donner une petite idée, comme ça, aux États-Unis, ils font ce qu'ils appellent du mountaintop removal. Dit comme ça, c'est juste, en fait, plutôt que de se faire suer à creuser une mine pour aller chercher du charbon, ils enlèvent le haut de la montagne et ils foutent dans la vallée. On est capable de le faire, ça, si on a envie. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment devenu une force d'érosion, en l'occurrence, d'accord ? Mais très importante dans l'environnement. On est capable, si on veut, de construire des montagnes ou de les décapiter. Il y a assez peu de monde qui les construit. Voilà. Alors, donc ce que je vous disais aussi, c'est que notre plus gros impact sur l'environnement, sans doute, c'est le fait qu'on ait brûlé autant de pétrole et de charbon. Donc avant 1800-1850, on ne tirait notre énergie que des plantes et du bois. Donc le bois pour se chauffer, parce qu'on en mange assez peu, et des plantes pour donc les manger et les fournir aux chevaux qui, eux, à leur tour, tiraient les charrues, et voilà, on nourrissait les vaches. Donc tout venait exclusivement des plantes. Donc c'était renouvelable à l'époque. Et puis on a découvert le pétrole, le gaz, le charbon, et on s'est dit que c'était quand même super pratique. Super pratique au point qu'on s'est mis à en brûler de plus en plus. Et donc, c'est ce que je vous disais, alors qu'on avait 260 parties par million, c'est-à-dire en fait, alors 260 parties par million, voilà, c'est ce qu'il y avait en fait de CO2 dans l'air, c'est-à-dire pour 1 million de molécules, il y en avait 260, c'était du dioxyde de carbone. Et bien nous, juste nous, en 150 ans, alors que ça, c'était resté inchangé pendant des millions, ouais, j'exagère, voici, des millions d'années, non, des milliers, des centaines de milliers d'années, et bien on est passé à 387 en 150 ans. On a quasiment, alors on n'y est pas encore, mais ça, vous pouvez faire confiance à tous ceux qui brûlent le pétrole, on va y arriver, on devrait arriver, en 200 ans, mettons, à doubler la quantité de dioxyde de carbone présent dans l'air. On n'en est pas encore à virer tout l'oxygène, d'accord ? Même si on brûlait tout le pétrole, il y aurait encore de l'oxygène dans l'air. Hein, vous vous souvenez, l'oxygène créé par toutes les plantes depuis des millions d'années, on va quand même pas réussir à tout virer. Mais quand même, ça commence à faire. Donc, au niveau agriculture, je vous ai dit, on utilise 12% de toutes les surfaces pour faire ce qu'on mange. Et surtout, il y a un truc aussi qu'on a beaucoup changé, c'est qu'on utilise des engrais. On s'est aperçu très vite que les plantes, elles manquaient en fait d'azote. Vous vous souvenez, elles ont du mal à éclater les molécules d'azote. Et puis, on manquait de phosphore. Mais heureusement, nous, on a trouvé à la fois un moyen de fabriquer de l'azote, de le prendre dans l'air et de le donner aux plantes. En gros, on fait l'opération nous-mêmes. Ça consomme du pétrole, mais c'est pas grave. Et puis, on a trouvé où était planqué le phosphore. Il y a des mines de phosphore. Alors, on a mis des pelleteuses, elles prennent le phosphore et puis elles en font de l'engrais. Voilà, donc il y a deux grands types d'engrais, ceux qui donnent de l'azote, ceux qui donnent du phosphore, et on y allait franco, avec l'engrais. L'avantage, c'est que du coup, les plantes se sont mises à pousser. Avantage aussi, on n'est pas en train de subir la famine en ce moment, parce que si on cultivait encore comme ils faisaient en 1800, on ne s'en serait pas sorti. Inconvénient, ben, l'agriculture, ça commence vraiment à laisser une trace sur l'environnement, et notamment, par exemple, ça dégage beaucoup de méthane. C'est pas grave, on verra ça, mais c'est la fermentation qui dégage en général du méthane. Pas la fermentation, mais ouais. Les choses qui pourrissent dégagent du méthane. Ah, et puis on utilise aussi beaucoup de produits chimiques. Alors justement, ouais non, c'est après ça, justement. Donc les composés organochlorés, c'est juste compliqué, mais pour dire qu'en fait on envoie du chlore dans l'atmosphère alors qu'il n'y était pas. Le chlore, c'est aussi un élément que j'ai pas évoqué parce qu'on en a pas, la vie n'en a pas besoin, mais nous on l'a fait, on l'a envoyé en l'air. Il y a des pesticides, du mercure et des particules fines. Ben, quand vous conduisez une voiture, un diesel, il y a des particules à peu près invisibles mais que vous envoyez dans l'air. C'est la même chose. Elles commencent à être visibles si vous faites brûler une bûche de bois. La fumée qu'il y a, c'est des microparticules. Et ça, on les envoie dans l'air et on sait aussi très bien faire. On a une grosse tendance, nous autres êtres humains, à envoyer beaucoup, beaucoup de choses dans l'atmosphère parce que c'est relativement facile. Conséquences. Donc maintenant, bon, la partie un peu technique est à peu près terminée. Vous savez à peu près comment marche la vie et qu'est-ce que nous on fait. On va voir les conséquences que chacun des trucs que j'ai décrits là a sur l'environnement et on va voir les 9 grandes questions que les scientifiques ont vraiment isolées. D'accord, ils se sont réunis à quelques-uns, assez nombreux, des grands pontes, et ils se sont dit bon, c'est quoi le problème? Et ils ont fait la liste. Le premier, vous en avez forcément entendu parler, c'est le changement climatique. En fait, c'est bien joli d'avoir envoyé beaucoup de CO2 et de méthane dans l'air, mais du coup, la Terre évacue moins bien sa chaleur. La Terre, elle reçoit beaucoup d'énergie par le Soleil. Si elle stockait toute cette énergie, il ferait vraiment trop chaud. Si elle s'en débarrassait complètement, il ferait aussi trop froid. Si elle se débarrassait complètement de l'énergie qu'elle reçoit, genre elle reçoit le jour et elle se débarrasse de tout la nuit, et ben en fait, il ferait moins 15. Globalement sur la planète. Ce serait tout gelé. Donc il faut que la Terre garde de la chaleur. Pour ça, elle a une forme de couverture. On peut imaginer ça comme ça, son atmosphère, elle fait un peu couverture. Elle va garder un peu cette chaleur. Elle le garde parce que le CO2 et le méthane, il y a beaucoup l'eau, hein, les nuages, ça retient la chaleur. Pour vous donner un exemple, c'est quand les nuits sont sans nuages que le matin, il fait le plus froid. Ça, c'est parce que quand il y a un nuage, ça forme une sorte de couverture qui empêche la chaleur de repartir. Quand il n'y a pas de nuage, tout se barre et le matin, il fait très froid. Ouais. Et ben en fait, il y a donc les nuages, c'est une sorte de couverture visible. Et ben il y a une couverture invisible, c'est le CO2 et le méthane. C'est une couverture qui est moins importante, mais celle-ci, nous, on joue dessus. On a du mal, on peut penser le contraire en voyant les centrales nucléaires, mais les centrales nucléaires ne sont pas des usines à nuages, et les hommes ont assez peu d'impact sur les nuages. D'accord ? Par contre, vu tout ce qu'on envoie en l'air, le CO2 et le méthane, ça, c'est quelque chose qui joue sur la quantité de chaleur que la Terre garde. Et donc, le climat est en train de changer tout doucement, c'est-à-dire que ça se réchauffe. Voilà, on met plus de couverture, donc ça se réchauffe tout doucement. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est en fait un gros problème, un problème énorme. Enfin, ouais, si. Conséquences futures, justement, le premier truc qu'on peut voir, c'est que la mer se dilate. Parce que comme il fait plus chaud, ça se dilate, et du coup, bah, le niveau monte. Donc on prévoit que, enfin, en plus ça fait fondre les glaciers, et puis donc les glaciers notamment en Antarctique, en Islande, tout ça, et ça fait que le niveau de la mer monte. Donc ça devrait monter dans les 100 prochaines années, et en plus ça va pas s'arrêter, c'est-à-dire c'est pas parce que ça aura monté de quelques mètres, ce qui est déjà pas mal, hein, y a pas mal de villes qui vont vraiment avoir les pieds dans l'eau, c'est pas parce que ça devrait monter de quelques mètres en une centaine d'années que ça s'arrêtera. Donc en fait, ça, c'est un problème. C'est pas un problème maintenant, mais plus ça va aller, plus ça va le devenir. Notamment, les Hollandais sont un peu mal. Ensuite, modification des précipitations. Plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore. Et donc, plus il y aura de pluie, y compris des pluies un peu violentes. Donc, en fait, des inondations. Et puis, il y a un souci, c'est que ça va vite modifier l'habitat. Les êtres vivants sont habitués à un milieu. D'accord, ils sont habitués à des espèces à côté, à avoir une certaine température et tout ça. Et puis, si ça change, eh bien, ils sont moins adaptés. Par exemple, il y a des arbres, il faudrait les remettre un peu plus au nord si le réchauffement s'accélère. La seule chose, c'est qu'ils se déplacent pas très bien, les arbres, et ils se déplacent par rejeton interposé. Ça veut juste dire que pour se déplacer, les arbres, les forêts, il faut qu'ils fassent un arbre juste à côté, qu'ils fassent un arbre juste à côté, petit à petit, comme ça, ça peut se déplacer. Mais ça prend pas 100 ans. D'accord ? En 100 ans, ils vont pas faire des kilomètres comme ça. Or, le réchauffement climatique, c'est plutôt à l'échelle de la centaine d'années. Et, ah oui, augmentation de l'intensité des cyclones. Pas leur nombre nécessairement, mais leur intensité, il est fort probable. Alors nous, on est moyennement concernés, on peut toujours dire que c'est pas très grave, mais les cyclones, ils seront de plus en plus forts, juste parce que plus il fait chaud, et plus il y a des mouvements d'air importants. Donc des cyclones. Oups. Alors il y a un truc aussi qu'on oublie très souvent. Donc la première question sur l'environnement, vous connaissiez tout ça, ou à peu près le réchauffement climatique, on vous a bassiné avec ça, pas de souci. Par contre ça, c'est la même cause, c'est-à-dire le CO2, mais c'est beaucoup moins connu. En fait, quand le CO2, on l'en met dans l'air, petit à petit, il se dissout dans l'océan. Et petit à petit, il le fait devenir acide. Et l'acide, c'est bien, mais en fait, ça bouffe, par exemple, les coquillages. Donc, ce qui se passe, alors, c'est pas que du jour au lendemain, les coquillages, ils vont fondre. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, ils ont de plus en plus de mal à fabriquer leurs coquilles. Et les coraux ont de plus en plus de mal à pousser. Et ça, c'est parce qu'on brûle du pétrole. Le lien n'est pas évident, mais c'est ça. Donc, voilà, le pH, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais ça vous donne une idée de à quel point l'océan est acide. Voilà. Par exemple, dans les sodas, il y a des bulles. Les bulles, en fait, c'est du dioxyde de carbone dissous. Et en général, un soda, c'est bien acide. C'est lié. Bon, l'idée, c'est pas de faire en sorte que les océans deviennent des sodas. Mais, on s'en approche un petit peu. Ensuite, les aérosols. Je vous ai dit qu'on envoyait des tonnes de trucs en l'air, y compris des fines particules. Alors, c'est 5% des cancers des voies respiratoires. C'est pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de monde qui fume. Donc, qui aspire directement à la source les microparticules. Heureusement pour les autres. Mais il n'empêche que 5% des cancers des voies respiratoires sont dus, finalement, au fait qu'on brûle du bois. À tel point que, par exemple, la Californie, ils ont interdit les cheminées. Maintenant, ils ont dit stop avec les cheminées parce que ça fait trop, en fait, de particules dans l'air. Et même les satellites voit les nuages de particules en hiver quand tout le monde se chauffe au bois, au-dessus de l'Europe. Ça se voit. Des nuages, en fait, on voit des trucs un peu plus grisâtres. C'est ce qu'on évacue dans l'air, notamment l'hiver, à cause du chauffage, et puis tous les jours, grâce à la voiture. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, surtout en Île-de-France, par exemple, 30% des particules, c'est dû aux voitures qui se déplacent. Donc, ça fait quand même 800 000... Alors, c'est dans le monde, évidemment, donc 1 million de personnes, pour le monde, c'est pas grand-chose, mais quand même, ça fait 800 000 personnes qui meurent prématurément, elles auraient pu vivre plus longtemps, soit des gens qui sont un peu âgés, soit des gens qui sont asthmatiques, voilà. Et en fait, c'est un phénomène qui est l'asthme pose un gros problème, enfin, plutôt les particules posent un gros problème pour les gens qui ont de l'asthme. Voilà. Il y a le trou de la couche d'ozone. Je vous ai parlé de l'ozone tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un service sympathique, ça nous protège des UV, une sorte de crème solaire en orbite, enfin dans l'atmosphère. Le souci, c'est qu'on a aussi envoyé du chlore dans l'atmosphère alors qu'il n'y était pas du tout. Et le chlore, il a une propriété, c'est qu'il détruit l'ozone. Et donc au bout d'un moment, en 85, il y en a qui se sont aperçus qu'au-dessus de l'Antarctique, il y avait un gros trou dans la couche d'ozone, c'est-à-dire qu'elle ne protégeait plus des ultraviolets. Une des conséquences, on s'en fout un peu, mais les lapins devenaient aveugles, ils chopaient des cataractes, donc il y avait plein de lapins aveugles en Amérique du Sud. Bon, c'est pas comme ça qu'ils l'ont vu, hein. Ils ont surveillé par satellite la couche d'ozone, mais c'était une des conséquences. Et donc, en fait, quand vous envoyez une molécule d'organochloré dans l'atmosphère, il va non seulement détruire une molécule d'ozone, mais en fait, après, il sera toujours là, donc il va en détruire une autre, et une autre, et une autre. C'est ce qu'on appelle un catalyseur. Ça déclenche une réaction en chaîne, et ça continue à se faire. Donc on s'en est aperçu et vite, tout le monde s'est mis d'accord en 87, donc environ 2 ans après la découverte du trou dans la couche d'ozone, pour dire bon, faut qu'on arrête d'envoyer du chlore dans l'air, on va essayer de diminuer ça. Ça a pas mal marché, c'est un truc qui peut laisser un peu d'espoir concernant l'avenir, c'est que ça a plutôt bien marché. Bon, c'est en 2006 qu'on a vu le plus gros trou. Donc en fait, tout ce qu'on a envoyé dans l'air, ça a continué à avoir de l'effet jusqu'en 2006. Et maintenant, c'est peut-être en train de se reconstituer doucement, et on espère que d'ici 2060, on sera revenu à la situation de 1980. Bon, la situation d'encore avant, faudra attendre encore un bon bout de temps, mais bon, ça au moins, on l'a à peu près arrêté. N'empêche qu'il faut continuer à le surveiller de très près. Il y en a qui disent que ça s'est stabilisé, mais on pense qu'il y a des gens qui continuent à envoyer du chlore dans l'air sans trop le dire. Voilà. L'azote et le phosphore. Je vous ai parlé des engrais et du fait que naturellement les plantes elles savaient pas se procurer ni l'azote ni le phosphore. Heureusement nous on a appris à le faire, alors on est allé vraiment franco. Et donc la quantité de phosphore qui circulait dans les systèmes, on l'a multipliée par 10. Et la quantité d'azote, on l'a multipliée au moins par 4. Donc tout d'un coup on a mis en circulation beaucoup plus d'azote, beaucoup plus de phosphore. L'azote c'est les nitrates. D'accord, typiquement. Donc en fait, quand on vous parle de nitrate, c'est l'azote. Donc maintenant, on en a foutu partout. Il y en a plein dans l'eau qu'on boit, des choses comme ça, surtout en Bretagne, par exemple. Et donc, c'est pas très bon pour la santé, mais surtout, tout cet azote et ce phosphore, ça finit tôt ou tard dans la mer. Et dans la mer, ça pose un gros problème, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie. C'est tout bête, c'est des engrais. Donc les algues qui sont dans la mer, elles sont super contentes de trouver ces engrais. Elles se développent à une vitesse effrénée. Plein d'algues, ça se voit, ça devient tout vert. Et puis, au bout d'un moment, elles meurent. Et là, il y a des bactéries qui arrivent pour les dégrader. Mais ces bactéries-là, elles consomment beaucoup d'oxygène, au point qu'elles sont capables de vider l'eau d'oxygène. Et comme je l'ai dit là, il n'y a pas de bulleur dans l'océan. Vous savez, dans les aquariums, on met un bulleur. C'est pour éviter que les poissons ils manquent d'oxygène. Parce que, en fait, l'oxygène, quand il est au-dessus de l'eau, il pénètre pas très bien. Comme il n'y a pas de bulleur dans l'océan, une fois qu'on a bouffé l'oxygène avec des bactéries, il n'y a plus d'oxygène. S'il n'y a plus d'oxygène, c'est la mort de tous les êtres vivants qui respirent l'oxygène des océans. Et ça, ça se voit. Il y a ce qu'on appelle des zones mortes, notamment la plus grande du monde, elle est située dans la mer Baltique, donc auprès de la Norvège et tout ça, et il n'y a plus un seul être vivant. Alors si on les trouve, mais morts au fond de l'océan, tous les crabes sont morts, on trouve des tas de trucs, des poissons morts, etc., qui sont en plus pas trop dégradés, parce qu'il n'y a même plus de bactéries pour les dégrader. C'est vraiment, on sait que dans l'histoire de la Terre, à plusieurs périodes, c'est carrément l'intégralité des océans qui s'est retrouvée une zone morte. C'est dû à des phénomènes biologiques, tout d'un coup, genre des modifications terrestres, et tout d'un coup, plein de phosphore qui arrive dans la mer, les algues qui se développent, et froum, plus d'oxygène, tout qui meurt. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, et malheureusement pour nous, les zones mortes se trouvent à l'embouchure des fleuves, ou là où il y a beaucoup de populations humaines autour. C'est pour ça que la Baltique, en fait, c'est entouré de pays, et donc tout le monde déverse ses engrais, et c'est pour ça que ça meurt facilement. La pollution chimique, suite. On a réussi à faire ce qu'on appelle, alors, faut pas se tromper, on appelle ça des continents de plastique. C'est juste que, en fait, notamment, on a un peu jeté le plastique n'importe où, les sacs plastiques, tout ça, ça s'est retrouvé dans la mer, ça se divise en tout petits morceaux qui sont absolument irrécupérables, hein. Il ne faut pas rêver. Et il y a des endroits, il se trouve que dans les océans, il y a des endroits où les courants amènent tout. Mais tout, tout, tout. Donc le plastique. Dans ces endroits, il y a en suspension dans un litre d'eau 6 fois plus de plastique que d'êtres vivants. Donc c'est des endroits affreux. Les êtres vivants qui mangent le plancton, en fait, ils avalent le plastique. Les oiseaux avalent le plastique aussi très bien. Et, voilà, donc on a réussi à créer ce qu'on appelle des continents de plastique. Il y en a à peu près un par océan. C'est au milieu de l'océan, les courants, ils amènent tous les plastiques. Donc on a découvert celui du Pacifique d'abord, Pacifique Nord, on pense qu'il y en a un dans le Pacifique Sud, il y en a un dans l'Atlantique Nord, on est sûr, voilà. Et puis, mis à part arrêter d'envoyer du plastique, il n'y a rien à faire, c'est absolument irrécupérable. Il faut attendre environ 500 ans que ce plastique-là se dépose au fond de ces océans et soit recouvert par autre chose. L'eau. Alors, l'eau, en fait, c'est pas un problème pour nous. D'accord ? En France, on prélève 20% de l'eau disponible, surtout pour refroidir les centrales nucléaires. Alors, prélever, ça veut pas dire qu'en fait, on la remet pas dans l'environnement après. D'accord ? On la prend, on en fait quelque chose, puis on la remet. Mais on en consomme vraiment, hein, quand vous la buvez, ou quand vous la mettez, quand vous la faites s'évaporer, en fait, vous la consommez, elle est plus disponible après pour le reste de l'environnement. Pour nous, ça va, mais dans le monde, c'est vraiment un problème. 25% des rivières n'atteignent plus la mer. On a tout utilisé avant. Il y a un exemple célèbre, c'est ça, la mer d'Aral. En fait, il y avait une mer, hein, c'est pas loin de la Russie, tout ça, et elle était alimentée par des fleuves. Puis ils ont décidé de cultiver le coton au bord, alors qu'ils ne l'avaient pas fait. Pour ça, ils ont détourné les fleuves. La seule chose, c'est que c'était les fleuves qui alimentaient la mer. Donc c'était une fausse mer, hein, c'était une sorte de grand lac. Et donc du coup, tout a séché. Et vous voyez là, en fait, c'est vert. Non, vous voyez pas. Croyez-moi, c'est vert sur les bords. Ça, c'est un signe d'eutrophisation, c'est-à-dire la mort des êtres vivants. Donc en plus, ce qui reste là, il n'y a rien dedans. C'est super salé, il n'y a plus un être vivant qui peut vivre là-dedans. Ça pose des problèmes évidemment, mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à inverser ça. Bon, on accroît les surfaces cultivées pour nourrir toujours plus de monde. Voilà, et c'est la raison majeure pour laquelle les espèces disparaissent pour l'instant. Bien sûr, il y a le réchauffement climatique, mais ça n'a pas encore commencé vraiment à faire sentir ses effets. Mais pour l'instant, par exemple, l'huile de palme, c'est 25% de la consommation mondiale d'huile. Et pour ça, on rase des forêts et on plante plein de palmiers à la place, qui n'ont pas tout à fait le même rôle. Et pour éviter un truc vraiment catastrophique au niveau des êtres vivants, il ne faudrait pas dépasser 15% des surfaces cultivées. Sinon, comme en plus on bouffe sur les forêts et tout ça, les plus jolies forêts, parce que c'est là que les terres produisent le mieux, sinon après ça risque d'être catastrophique pour le problème suivant. Ce qu'on appelle la biodiversité. On vous en a rabâché sans doute des trucs sur la biodiversité. Le problème, on devrait presque pas en parler sous forme de biodiversité, ça fait joli, ça fait fun. En fait, dans l'histoire de la Terre, il y a eu 6 grandes extinctions. Extinction, ça veut dire que vous virez de la surface de la Terre un grand nombre d'espèces, de l'ordre de 50% de toutes les espèces, surtout les plus grosses. Les plus grosses disparaissent vite. La dernière qu'on connaisse, c'est celle des dinosaures. Et tous les dinosaures, à ce moment-là, fou, ils ont tous disparu. Et bien aujourd'hui, en fait, on est dans une période de grande extinction, et on le sait, et en plus on sait que c'est de notre faute. Donc on sait que si on continue comme ça, on va faire disparaître, en gros, les ours polaires, tous les ours, tous les gros animaux, en fait, on va les faire disparaître, c'est les dinosaures de maintenant. Ça a déjà commencé depuis quelques temps, parce que l'homme est une espèce un peu invasive, hein, d'accord, et on est sans doute responsable de la disparition des mammouths, des tigres à dents de sabre, etc. Quand on est arrivé en Amérique du Nord, on a un peu déjà mangé tous les mammouths. En gros, c'est ça. On n'est pas tout à fait sûr, mais voilà. Et ce qu'on sait estimer, par contre, c'est que, bien sûr, il y a des espèces qui disparaissent hein, tout le temps. Ça arrive tout le temps, même dans l'histoire géologique. Seulement, en ce moment, en gros, les espèces disparaissent 100 fois plus rapidement que dans une période géologique normale. Voilà, donc on est en train de faire disparaître les grosses espèces, hein, les baleines, les dauphins, les machins. Il suffit de regarder la liste des espèces menacées, qui est que la partie immergée de l'iceberg, parce qu'on ne connaît pas toutes les espèces, donc il y en a plein qui disparaissent et on ne le sait même pas. Mais en tout cas, on est en train de les faire disparaître, ça on en est sûr. Voilà, donc quelle solution? C'est la dernière partie de mon exposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va être relativement rapide, il y a deux choses à faire. On a vu que les deux grands trucs qui ont un impact sur l'environnement, c'est l'énergie et l'agriculture. Alors déjà, on gaspille énormément de choses, et on n'a jamais fait attention à ne pas consommer. Jusque-là, c'est pas grave, la planète c'était grand. On pouvait consommer tant qu'on voulait. Et heureusement pour nous, il y a plein de pistes pour faire des économies d'énergie en espérant qu'on ne diminue pas notre confort et notre espérance de vie, ainsi que la population. Donc on va épargner l'environnement. Vous avez entendu dans les médias, vous savez ce qu'il faut faire pour épargner l'environnement. Ouais. Il faut donc acheter des ampoules basse consommation, éteindre les lumières, éteindre les appareils électriques en veille, moins tirer la chasse d'eau, moins prendre de douche, et puis c'est surtout l'industrie qui a beaucoup d'efforts, et puis on fait faire trop de kilomètres au yaourt. En fait, tout ça, c'est faux. D'accord? Tout ça, c'est des petits gestes. En fait, vous pouvez continuer à les faire, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, il y a des gros gestes. Et ces gros gestes-là, il ne faudrait pas passer à côté. En fait, le problème, c'est qu'en faisant les petits gestes, on se donne souvent bonne conscience, on se dit, c'est bon, je fais des tas de trucs pour l'environnement, et puis on passe à côté des vrais gros gestes. Alors, les gros gestes, c'est simple, on va voir la consommation d'énergie en France. J'ai aussi mis dans les idées reçues, hein, c'est l'industrie, c'est ces méchants industriels qui envoient beaucoup de CO2 dans l'air. En fait, c'est raté, pour la bonne et simple raison que ça, c'est l'utilisation de l'énergie en France. C'est en France. Résidentiel, c'est les maisons. Voiture, ben c'est les voitures. Donc, il y a 44% de l'énergie, à peu près la moitié, qui est consommée directement par nous, les individus. C'est environ deux fois plus que ce que consomme l'industrie. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est responsable du dioxyde de carbone qui est en l'air. C'est nous qui l'envoyons tous les jours. Et surtout, c'est ce qu'on va voir, le résidentiel, c'est le chauffage. Donc, pour économiser l'énergie, il faut chauffer moins. Le chauffage, c'est un tiers de toutes nos dépenses d'énergie. Et quand vous baissez d'un degré la température chez vous, c'est comme si vous allumiez jamais la lumière en termes d'économie d'énergie. Alors vos appareils en veille et vos ampoules à basse consommation, c'est rien du tout comparé à baisser de 1 degré la température chez vous. Donc ça, en fait, c'est plutôt un gros geste. Mais d'ailleurs, assez peu de monde le fait. C'est un petit peu plus dur à supporter. Donc, mais le truc, en fait, le truc vraiment idéal, si vous arrivez à convaincre des gens de le faire, c'est de s'isoler. En fait, si on s'isolait vraiment correctement, par exemple, ils le font pas mal dans les pays du Nord, là où il fait vraiment froid, on pourrait ne pas se chauffer du tout. On n'aurait pas besoin de 30% de notre énergie. Mais s'isoler vraiment, c'est vraiment y aller carrément. C'est 40 cm de laine de verre, c'est... Bon, y a pas mal de choses à faire. D'ailleurs, c'est un réservoir de travail absolument énorme. Il va falloir le faire. Parce qu'on va manquer de pétrole, et de gaz, et de charbon un jour ou l'autre. Et on n'a pas de quoi compenser. Donc il va falloir le faire, mais ça demandera une quantité de boulot gigantesque. Bon. Donc, mieux s'isoler, et puis moins prendre la voiture, et faire moins de route au yaourt. Ça, c'est vrai que tant qu'on peut, c'est mieux, parce que les transports, c'est l'autre tiers de notre consommation d'énergie. Le dernier tiers de notre consommation d'énergie, on y tient un peu plus, c'est faire marcher des ordinateurs, des trains, des éclairés. En fait, même éclairé, les écoles, les routes, la nuit, tout ça, c'est le dernier tiers. Ce dernier tiers, celui-là, on peut pas trop y toucher, d'accord? C'est un peu ce qui fait tout marcher, même les usines, etc. Mais il vaudrait mieux pas trop toucher au dernier tiers. Par contre, les transports et le chauffage, là, on peut vraiment faire quelque chose. Chercher des autres sources d'énergie. Ça, vous en avez entendu parler, l'éolien, le photovoltaïque, pourquoi pas? Simplement, quand on regarde combien ça peut fournir, c'est absolument pas suffisant. On pourra jamais, mettez-vous bien ça dans la tête, jamais, même si on blinde d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, on arrivera à fournir autant d'énergie que ce qu'on consomme sous forme de pétrole. Pétrole, c'est 85 millions de tonnes de pétrole par an en France. Si vraiment vous utilisez du photovoltaïque et de l'éolien à fond, vous allez peut-être fournir 10 à 20 millions de tonnes de pétrole, ou d'équivalent, pas plus. Et quand je dis à fond, hein, c'est 30 000 éoliennes géantes sur toute la surface du territoire, on en est à 2000, et des panneaux photovoltaïques sur tous les toits, tous. Donc ça, on n'y est pas. Et on ramasse que la moitié du bois, donc ça, faudrait ramasser l'autre moitié, mais ça permettrait de gagner aussi que 10 millions de tonnes. Donc ça, il faut y renoncer, la vraie solution, elle est dans les économies d'énergie. Voilà, limiter l'impact de l'agriculture. En fait, on estime que 30 à 40% de la nourriture qu'on produit, on la jette. Pas nous directement, mais les supermarchés, quand c'est périmé, ils jettent. Et puis, même quand les carottes, elles sont pas assez belles, on jette. Bon, il faudrait un peu éviter ça. Il faut éviter de devenir obèse. C'est une forme de gaspillage, puis c'est pas bon pour la santé. Et puis, il faudrait manger bio. Alors, bio, c'est pas parce que c'est meilleur pour la santé. Ça, à la limite, on s'en fout. Mais par contre, ça consomme moins d'azote et de phosphore, donc ça perturbe moins les écosystèmes. Local, pour éviter la production de CO2 quand on transporte tout. J'ai un exemple, et deux saisons, un exemple en fait, dans mon supermarché près de chez moi, j'ai trouvé en plein hiver des tomates produites en Hollande, où il faisait encore plus froid que chez moi. Ça veut dire qu'ils ont pris des serres, qu'ils les ont chauffées à mort pour faire pousser des tomates en brûlant plein de pétrole, et qu'en plus ils ont brûlé du pétrole pour les amener jusqu'à chez moi, sans compter la belle barquette en plastique dans laquelle tout ça était emballé. D'accord? Ça, c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Donc, manger bio à tout prix, c'est pas une bonne idée. Pas si c'est pas produit localement et pas de saison. Et puis, manger un peu moins de viande. On a pris l'habitude de manger beaucoup de viande. Mais 37% des céréales qu'on produit dans le monde, elles vont nourrir les animaux, en fait. On produit, par exemple, largement assez de céréales pour que personne dans le monde ne souffre de famine. Le problème, c'est que nous, les gens des pays développés, on est prêts à payer cher pour avoir de la viande, plus cher que ce que les gens peuvent se permettre. Les gens des pays pauvres, ils ont du mal à payer aussi cher pour manger des céréales, eux. Ils payent plus cher pour nourrir nos vaches, quoi, en gros. Voilà. Donc, manger un petit peu moins de viande, c'est pas mal, et puis c'est pas mauvais pour la santé. Bien, pour économiser l'eau, n'ayez pas peur d'aller aux toilettes, on s'en fout. Hein. On prélève beaucoup plus d'eau dans les centrales nucléaires. Voilà. Il faut éteindre la lumière, parce que c'est les centrales nucléaires qui prélèvent beaucoup d'eau. Les centrales pas seulement nucléaires. Donc si on éteint la lumière, on économise de l'eau, paradoxalement. Et manger moins de viande, parce que les vaches, ça boit beaucoup. Conclusion. Bon, j'ai fini. Donc pour rappeler un peu. La croissance exponentielle de nos besoins, je vous ai expliqué ce que c'est que ça croît très très vite. Ça fait que ça va pas être tenable très longtemps. D'accord? Dès que la croissance à 1% pendant un millier d'années, c'est pas faisable, et pendant 100 ans, c'est pas faisable non plus. Pas si ça concerne l'environnement. On va avoir un problème de pétrole dans les 10 années qui viennent, parce qu'en fait on est arrivé à la moitié de tout le pétrole disponible, on l'a déjà brûlé. Et maintenant, ce qu'on arrivera à tirer du sol, ça risque de diminuer. Donc il va falloir s'isoler, il va falloir économiser l'énergie de toute façon. N'empêche que on en a encore tellement à brûler que ça peut bien réchauffer l'atmosphère d'ici là. Il y a encore plein de charbon. Et puis, globalement, arrêtez les petits gestes, cherchez à en faire des gros. Si vous arrivez à vous convaincre vos parents qu'il faut qu'ils isolent leur maison, vous aurez fait un gros geste pour l'environnement. Et puis après, vous pouvez laisser en veille tous les appareils que vous voulez. Et un dernier truc, c'est pour qui tout ça? C'est pour vous. À peu près, quand on regarde à peu près l'échelle de temps dans laquelle tout ça va se produire, c'est-à-dire on aura des problèmes, c'est dans les prochaines 50 années, ça va commencer dans les 10 prochaines années sans doute pour la raréfaction de l'énergie, du pétrole, pas de l'énergie mais du pétrole. Et après, ben, c'est vous qui aurez à gérer le problème. Donc effectivement, il vaut mieux s'y préparer. Ça risque d'être pour beaucoup d'entre vous une source de travail assez inépuisable si on décide par exemple d'isoler les maisons, d'installer des panneaux photovoltaïques partout, des éoliennes et tout ça. Il y aura beaucoup de travail. Voilà. Merci, j'ai terminé. Vous pouvez poser vos questions.